Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Cette émission est la suite d'un entretien que Roger Caillois accorda à Janine Worms en 1970. Dans ce deuxième épisode d'une série de 12, l'écrivain poursuit ses réflexions sur le rêve, ce qui distingue ou ce qui crée la confusion entre le rêve et la réalité.
Nous parlions hier, Roger Caillois, de la teneur même des rêves, et vous nous disiez que ça n'était pas tant la teneur des rêves qui vous intéressait que le fait qu'on rêve. Et de ce fait qu'on rêve, vous tirez principalement une incertitude qui vient des rêves, qui est d'ailleurs le titre d'un de vos ouvrages, que, pour ma part, je l'avoue, j'aime entre tous. D'où vient cette incertitude? Comment ce rêve fait douter de la réalité tout entière?
Eh bien, je crois que quand on rêve, non pas ce qu'on entend par rêve ou par songe, c'est-à-dire des choses impossibles, mais des choses qui auraient pu très bien se passer dans la vie réelle, on ne sait plus si on les a accomplies ou non. Par exemple, on veut écrire une lettre. On y pense pendant la nuit. On l'écrit presque dans sa mémoire en se disant « je l'écrirai réellement sur le papier le lendemain matin ». Mais on peut aller plus loin si on s'endort à ce moment-là. On peut rêver qu'on l'a écrite réellement et même qu'on a cherché un timbre et qu'on l'a mise à la poste ou qu'on n'a pas trouvé la poste ou qu'on s'est trompé d'adresse. Et le matin, on oublie le rêve et puis il revient dans la journée. Et à ce moment-là, il est très difficile de savoir si on a réellement écrit la lettre et si on l'a mise à la poste. On doute à ce moment-là de ce qui vous est arrivé. Et cela peut arriver dans tout ce qui ressemble à la vie, tout ce qui ne se différencie pas de la vie. Et évidemment, si je rêve que j'ai assassiné le président de la République, je sais bien le matin que ce n'est pas vrai. Les journaux me l'annoncent, mais pas si j'ai mis une lettre à la poste. Ça, tout ce qui est de la vie quotidienne, de la vie intime, il est très difficile de savoir, à mon avis, si on l'a rêvé ou non. Et cela a une grande importance, c'est que comme tout ce que l'on vit dans la vie de tous les jours et de ce jour-là, on ne peut jamais savoir si on n'est pas en train de rêver ou non.
En revanche, vous dites également qu'on peut vivre des choses qui ressemblent à des rêves.
Oui, n'est-ce pas? Une des distinctions principales établies par les philosophes, en particulier par Descartes, mais je crois aussi par Proust, est la suivante. C'est que c'est le mythe du déplacement inconscient, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce qui fait qu'on distingue le rêve et la réalité, c'est qu'on se réveille toujours dans ou presque dans la même chambre, qu'on retrouve les mêmes gens, qu'on est livré aux mêmes occupations, c'est-à-dire que la vie est continue tandis que le rêve est intermittent. Mais si on rêvait toujours la même chose, si on rêvait un tissu continu, et si sans qu'on le sache, pendant qu'on dort, on vous déplaçait d'une ville à l'autre et dans les milieux les plus différents possibles, à ce moment-là, c'est probablement la réalité qui nous semblerait le rêve, comme le rêve nous a permis de nous différencier, de différencier notre vie de la réalité, parce qu'il était différent à chaque nuit.
C'est exactement le cas de La vie est un songe de Calderón que vous venez de nous exposer.
C'est le cas de La vie est un songe. Il y a même La vie est un songe est encore une histoire littéraire. Dans l'histoire elle-même, il y a eu un exemple. C'est l'histoire de Hakim, le chef des assassins, de ce qu'on a appelé les assassins, le fondateur de la religion ismaélienne, qui formait des tueurs, n'est-ce pas, et qui les formait de la façon suivante. C'est raconté en particulier dans Marco Polo. Il les endormait, n'est-ce pas? Il les mettait dans une chambre et puis il les réveillait. Il les réveillait et son château était dans un pic désertique entouré de sable à perte de vue. Et là, il avait détourné une source et il y avait un merveilleux jardin avec des fruits, des fleurs et des jeunes femmes qui se prêtaient à toutes les volontés de ces gens qui venaient d'être réveillés et qui ne se doutaient pas de l'existence de ce paradis. Alors à ce moment-là, il les rendormait et il les remportait dans leur cellule où ils s'éveillaient, de sorte qu'ils prenaient pour un rêve ce qu'ils avaient réellement vécu. Et on recommençait cela pendant des jours et des semaines, si bien qu'ils étaient persuadés que c'était un rêve, qu'ils rêvaient toujours le même rêve et qu'ils avaient été transportés au paradis. Et alors il devenait facile de faire qu'ils sacrifient leur vie pour qu'ils soient transportés dans ce paradis-là d'une façon définitive et qu'ils ne cesseraient plus.
Dans ce cas quand même, cette réalité continue, on leur donne comme un rêve, n'est pas pour eux une réalité, mais une réalité supérieure, un paradis qu'ils auraient rêvé. C'est-à-dire que
c'est la réalité qui leur paraît un rêve. Alors que dans les cas que j'ai exposés dans mon livre, et qui sont les cas les plus communs, les cas qui arrivent à tout le monde, c'est le rêve qui nous paraît réalité. C'est-à-dire le rêve est si proche de la réalité que nous ne savons pas, que nous n'avons pas les moyens de l'en distinguer.
Vous parlez aussi dans l'incertitude qui vient d'un rêve, d'un cas où la réalité elle-même devient tout à fait douteuse par une espèce de multiplication qui se met en elle.
Ah bah, il peut y avoir des réactions en chaîne. Dans mon livre, je cite l'histoire d'une rencontre que j'ai faite inopinément à Strasbourg avec Denis de Rougemont. Et Denis de Rougemont m'a dit qu'il venait de rencontrer Nabokov et que Nabokov, avec sa distraction habituelle, lui avait dit qu'il venait de prendre l'avion et qu'il lui était arrivé une aventure très très bizarre, n'est-ce pas ? Il était à côté d'un Chinois et le Chinois était somnolent. Puis brusquement, il s'est réveillé et lui a dit « Avez-vous une quincaillerie ?» Et Nabokov lui a répondu non. Le Chinois s'est rendormi et puis ils ne se sont plus revus à l'atterrissage, si bien que Nabokov n'a pas pu demander au Chinois le sens de cette question bizarre. Nabokov a dit à Rougemont, c'est probablement une phrase qu'il a prononcée dans une sorte de rêve. Et Rougemont m'a dit, mais c'est peut-être l'inverse. C'est peut-être Nabokov qui a rêvé qu'un Chinois qui était à côté de lui demandait ce que c'est qu'une quincaillerie. Et puis nous sommes séparés, Denis de Rougemont a quitté Strasbourg, et le lendemain matin, je me suis souvenu de l'histoire qui m'a semblé très bizarre, si bien qu'à mon tour, je me suis demandé si ce n'était pas moi qui avais rêvé que Denis de Rougemont m'avait raconté l'histoire du Chinois qui lui demandait s'il avait une quincaillerie. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que cela finisse. Quand je raconterai mon histoire dans le livre, peut-être que le lecteur, le lendemain, se demandera s'il n'a pas rêvé d'avoir lu l'histoire dans un livre qu'il a lu la veille. C'est bien qu'en un sens théorique, n'est-ce pas, il n'y a pas de fin à cette incertitude qui vient des rêves. Je dis qu'il y a une incertitude théorique parce qu'il y a, dans un cas comme cela, il y a mille moyens de vérifier ce qu'il en est.
C'est très joli cette histoire qui est arrivée à Nicolas Nabokov et que Denis de Rougemont vous a racontée. Mais je crois que dans votre livre, il y a d'autres formes d'histoire.
J'ai raconté une autre histoire. Une fois, je m'étais égaré dans le bazar d'Isfahan. Le bazar d'Isfahan est immense. Il est dans des voûtes où il y a tout. Et je m'étais arrangé pour y aller seul parce que j'en avais assez des gens qui m'accompagnaient ce jour-là, qui étaient pourtant très gentils, mais on se lasse de tout, même de la gentillesse. Et au bout d'une heure d'errance dans les couloirs et les galeries du bazar, où j'ai voulu trouver la sortie, je n'y suis pas parvenu. J'ai tourné dans des sens, dans d'autres. Quelquefois, je croyais trouver une sortie, j'entrais, c'était une mosquée où naturellement les croyants me regardaient assez courroucés parce que je troublais leur dévotion ou leur prière. Quelquefois, je ne reconnaissais pas les lieux où je passais. Quelquefois, je les reconnaissais et c'était encore pire, si bien que j'ai eu à ce moment-là un sentiment de panique, comme on en a dans les cauchemars. Et au moment même où j'éprouvais cette réalité, qui était bien une réalité, je me suis dit que rien ne m'avait donné une impression de cauchemar aussi grande que celle que j'étais en train de ressentir.
Vous me parlez là d'une réalité déroutante, de même que vous m'avez parlé tout à l'heure de rêves cohérents. Pour ma part, je veux dire que je fais des rêves parfaitement incohérents, en couleur, parfois très gais, où je ne rencontre que des gens que je ne connais pas du tout. À quoi est-ce dû, cette incohérence dans les rêves ?
Bien, c'est ce qu'hier, j'avais essayé de penser, avant d'avoir lu les travaux du docteur Dement auxquels vous faisiez allusion, qu'il n'y avait pas de rêve en réalité, que c'était l'incohérence même des idées avant que l'intelligence ne réussisse à les dominer et à les regrouper qui donnait cette impression d'incohérence. Mais vous savez que les travaux de ce professeur américain ont montré qu'il y avait toute une période de sommeil qui était dédiée, qui était vouée au rêve, comme il a pu le voir au moyen d'électroencéphalogrammes et aussi du roulement de la pupille sous la paupières, n'est-ce pas ? Par conséquent, il y a réellement une période du sommeil qui est consacrée au rêve et qui est beaucoup plus longue que celle que l'on avait d'abord supposée. Par conséquent, il y a bien un état de rêve. Maintenant, la cohérence des rêves, je crois qu'elle tient, comme l'a d'ailleurs très bien vu Paul Valéry, à qui on ne rend pas justice quand on étudie le rêve, c'est que ce qui fait une grande partie de l'incohérence du rêve, ce n'est pas tellement l'incohérence des images entre elles, c'est le fait que l'impression ne correspond pas avec l'image. C'est-à-dire qu'une image comique ou grotesque ou cocasse peut vous donner une impression d'angoisse extraordinaire, alors qu'une image dramatique comme la mort de quelqu'un ou la torture ou n'importe quoi peut vous faire rire et vous sembler extrêmement plaisante. Ce ne sont pas d'ailleurs les exemples que donne Valéry. Valéry raconte une chose qui est arrivée d'ailleurs à tout le monde. Moi, ça m'est arrivé avec des romans policiers. Au moment où j'étudiais le roman policier, je rêvais de romans policiers avec une intrigue parfaitement bien agencée. Eh bien, lui raconte qu'en vers, il a inventé le plus beau vers, non seulement qu'il ait jamais écrit, mais peut-être le plus beau vers de la langue française. Mais quand il s'est réveillé à ce moment-là pour le noter, il s'est aperçu que c'était simplement des syllabes sans suite. Et ce qu'il avait rêvé, c'était des syllabes sans suite auxquelles venait s'ajouter une impression de splendeur, de magnificence et de perfection. Mais dans un des phénomènes du rêve, et certainement celui-ci, il n'y a pas de lien entre l'émotion et l'image qui la provoque. Et c'est ce qui explique que dans l'Antiquité, ou bien dans les populations qu'on a pris l'habitude ou qu'on avait l'habitude d'appeler primitives, on distingue toujours deux sortes de rêves, ceux qui sont valables et ceux qui ne le sont pas. Eh bien, les rêves valables qui sont envoyés par les dieux sont ceux qui provoquent une très forte impression. Les rêves ne sont que des images qui ne comptent pas et qu'il faut mieux oublier ou jeter à la poubelle instantanément.
Néanmoins, lorsque vous parlez du rêve de Valéry, lorsque vous évoquez vous-même les rêves que vous avez faits relatifs à des romans policiers à l'étude desquels vous vous adonniez à ce moment-là, il semble que les rêves que vous faites, ceux de Valéry et les vôtres, correspondent à vos préoccupations, donc dans une certaine mesure seraient révélateurs de vous-même.
Oui, mais elles ne sont pas plus révélateurs qu'autre chose, elles le sont plutôt moins. Elles sont révélateurs à distance et d'une façon très floue. Valéry, qui est poète et qui s'escrime à faire des vers, naturellement rêve de vers. Si quelqu'un comme moi, qui à ce moment-là écrivait un traité sur le roman policier, rêve, il est très normal qu'il rêve qu'il est lui-même soit un héros de roman policier, soit le détective qui fait la recherche ou l'écrivain qui est en train de l'écrire. D'ailleurs, d'habitude, ça se passe comme cela. On a l'impression de lire un roman policier. Enfin, c'était ce qui m'était arrivé. Je lisais le roman policier, puis je tournais la page, mais petit à petit, le livre disparaissait et j'étais moi-même en plein dans le récit qui m'avait d'abord semblé extérieur à moi, à tel point que j'avais l'impression de le lire. Mais maintenant, j'avais l'impression de le vivre et d'échapper au couteau ou au revolver de l'assassin, ou au contraire, de le faire arrêter. Mais cela, est-ce que c'est caractéristique de la personnalité? Je ne le pense pas. C'est caractéristique des préoccupations. Et vous savez qu'en même temps que Freud, il y a un psychologue qui s'appelle Judelage, qui a construit une théorie rêve sur ce thème-là, que les rêves étaient faits non pas des pensées qui vous révélaient, mais des pensées que l'on écartait, des pensées qui étaient en trop et qui vous gênaient, mais dont on était parfaitement conscient, dont simplement on voulait se débarrasser, et je dirais presque s'épouiller.
En quelque sorte, le rêve serait la poubelle de la réalité.
C'est ce que prétendait Yves Delage, et c'est l'expression poubelle de la réalité est celle qui a été reprise exactement par le romancier D.H. Lawrence dans Fantaisie de l'inconscient.
C'était Roger Caillois au micro de Janine Worms, deuxième volet d'un entretien en 12 parties, première diffusion de cette émission le 31 mars 1970. À suivre.